Avec nous, le père Boris Bobrinskoy, un témoin du feu de l'Esprit. Quels ont été les grands événements de l'Esprit-Saint dans votre vie?
Je crois que parler du grand événement de l'Esprit-Saint, c'est avant tout parler de l'Esprit-Saint lui-même. De l'Esprit-Saint lui-même qui, depuis ma jeunesse, depuis que je suis surtout entré dans la vie, dans la mouvance, dans l'apprentissage de la théologie à l'Institut Saint-Serge, c'est cette découverte même de l'Esprit-Saint qui a, je dirais, pénétré ma vie entière et qui m'a rendu sensible à une vision vivante, à une expérience vivante de la vie de l'Église, de la théologie en particulier, du lien entre la pensée et l'expérience profonde, du lien entre la pensée et la prière, bien sûr, parce que l'Esprit-Saint nous introduit dans le mystère du Christ, il nous le fait connaître, il nous le fait aimer, il nous le fait vivre, il nous le fait confesser.
Vous insistez beaucoup sur le lien entre prière du cœur et Eucharistie. Expliquez-nous.
Eh bien, tout d'abord, j'ai découvert moi-même ce sens, cette réalité de la prière du cœur, très jeune encore, liée à une amitié très profonde que j'avais en particulier avec le défunt maintenant, métropolite Antoine Blum. De sorte que cette tradition de la prière du cœur m'est devenue très très proche. Je ne peux pas dire que je suis entré véritablement dans la technique. On est toujours un débutant dans ce domaine-là.
Qu'est-ce que c'est la prière du cœur? C'est la prière dans le cœur? C'est la prière qui part du cœur? Dites-nous.
L'un et l'autre, l'un et l'autre. Je pense que la prière du cœur, c'est cette descente de l'intelligence, de la volonté, de la sensibilité, de tout notre être conscient dans les profondeurs, dans les ténèbres intérieures, dans le silence intérieur du cœur. Et lorsque cette descente se fait, eh bien là, on découvre que dans cette intimité, dans ces profondeurs ultimes, il y a, disons, le sceau de l'Esprit-Saint, il y a le nom de Jésus, il y a l'image de Dieu qui sont là, et par conséquent, c'est dans ces profondeurs-là que s'opère la véritable rencontre avec le Seigneur, à condition bien sûr que ce cœur dont nous parlons soit lui-même exorcisé, soit libéré, soit purifié, soit sanctifié.
D'où le lien avec l'Eucharistie?
Je pense qu'on parle très souvent de la prière du cœur comme de la liturgie intérieure ou de l'Eucharistie intérieure, car il y a en réalité une très profonde consonance et correspondance entre l'Eucharistie commune de l'Église et l'Eucharistie privée particulière qui consiste justement en cette prière, en cette invocation incessante du nom de Jésus. Cette invocation du nom de Jésus qui se fait évidemment par, dans et pour l'Esprit-Saint.
Et face à la souffrance, face à la misère du monde, est-ce que la prière du cœur nous permet de ne pas désespérer, de trouver la force de compatir?
C'est certainement seulement lorsque nous sommes dans cette présence du Christ et lorsque l'Esprit-Saint nous baigne de son amour et de sa force et de sa grâce et de sa consolation que nous pouvons voir en face la misère du monde, la souffrance, prendre sur nous, je dirais même, cette souffrance, y participer. Et c'est là que le mot « compatir » prend toute sa signification. Compatir, compassion, ça veut dire souffrir avec. Tant qu'on n'apprend pas et tant qu'on ne vit pas cette expérience de participer, de partage de la souffrance, eh bien cette souffrance est extérieure et notre cœur demeure froid.
Est-ce que c'est la participation intérieure qui permet de ne pas vivre le désespoir ou le découragement?
Je crois que tant que nous sommes en dehors de nous-mêmes et tant que le Seigneur est loin, eh bien nous ne pouvons pas affronter cette vision, affronter les déserts, ce qu'on peut appeler les déserts du cœur. On cite souvent la parole de notre grand évêque de Paris, le métropolite Loge, lorsqu'il reçut les vœux de consécration monastique de Mère Marie, qui consacra sa vie à soulager toutes les souffrances humaines, en particulier vers la fin de sa vie, à sauver les Juifs de la persécution et de la mort. Et lorsque Métropolite Loge la consacra à la vie monastique, il lui donna le nom de Marie en lui disant d'aller dans le désert des cœurs humains.
Comment va-t-on dans le désert des cœurs humains?
Eh bien, je pense que c'est une véritable descente, c'est une découverte de ce désert, de ces souffrances, de ces ténèbres dans lesquelles nous sommes appelés à descendre, mais en portant en nous-mêmes, au plus profond de nous, la lumière du Christ, que nous puissions descendre dans ces cœurs sans désespérer et sans nous détruire nous-mêmes dans ces ténèbres.
Quels sont les noms que vous donneriez aux ténèbres du cœur ?
L'enfer.
C'est quoi l'enfer ?
Eh bien, l'enfer, c'est en soi, ce sont les ténèbres, c'est la solitude, c'est le froid et c'est le chaud en même temps. C'est l'absence de Dieu, c'est le découragement, c'est la désolation totale. C'est le sens qu'il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas d'espérance. Autour, vous qui entrez dedans, abandonnez toute espérance. Vous connaissez cette parole que Dante citait au porche, au portique de l'enfer. Eh bien là, je crois que la foi chrétienne, et cela nous est rapporté par la vie du grand star et satanite, saint Silouan de la Tos, qui, à un moment de grande désespérance, entendit la parole du Christ qui lui dit « Garde ton esprit en enfer et ne désespère pas ». C'est une antinomie, c'est une contradiction. Comment peut-on être en enfer et ne pas désespérer pourtant ? Si nous sommes en enfer, nous ne désespérons pas, alors l'enfer lui-même s'illumine et les portes de l'enfer, on peut le dire, sont brisées. Et c'est le mystère de la résurrection du Christ. Si nous portons l'esprit de la résurrection, la puissance de Christ dans nos cœurs, nous pourrons aller même jusqu'à l'enfer.
Le dialogue, l'écoute, est-ce que ce sont des définitions que vous donneriez à la prière ?
Ben, la prière est bien sûr un dialogue. Un dialogue dans lequel on apprend tout d'abord à faire silence pour que au plus profond de nous-mêmes se fasse entendre, on dirait, les coups, les appels ou les gémissements, on peut dire, de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint nous appelle, il nous sollicite. Ou bien le Christ lui-même qui, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un m'entend et m'ouvre, j'entrerai, je serai près de lui. Et les pères aiment bien parler du Christ mendiant d'amour, du Christ humble, du Christ suppliant qui désire entrer dans notre cœur pour y être au chaud. Et je crois que nous ne devons pas avoir peur de ces images-là. On représente toujours Dieu, bien sûr, dans sa toute-puissance, dans sa souveraineté, dans sa majesté. Et bien là, il faut rappeler que Dieu, le Christ, nous a donné l'exemple d'humilité. « Venez à moi, vous tous qui souffrez, car je suis doux et humble de cœur. »
Est-ce que la liturgie est aussi ce lieu où on retrouve cette chaleur du cœur ?
Bien sûr, cette chaleur du cœur, nous la trouvons justement dans la Sainte Eucharistie, dans la communion. Lorsque nous entendons la parole du Christ, nous entendons la parole de Dieu dans l'Évangile, eh bien, c'est déjà une première communion. C'est déjà une véritable osmose, on dirait, où la parole du Christ devient notre propre parole et nous pénètre et nous régénère. Et puis ensuite, nous progressons, n'est-ce pas, dans cette offrande de notre vie, dans cette offrande de notre cœur, dans l'élévation de notre cœur, source ou corde, élevons nos cœurs. Nous les avons vers le Seigneur. Et c'est cette montée ascensionnelle, n'est-ce pas, de l'offrande de notre vie entière. Et à mesure que nous offrons notre vie entière, notre cœur se réchauffe. Ensuite, quand viendra le temps de la communion dans l'Esprit Saint, nous rappellerons aussi avec les pères de l'Église que la communion est une communion au feu de l'Esprit Saint, parce que l'Esprit Saint est un feu qui nous régénère, qui nous illumine, qui nous brûle et qui consume bien sûr toutes nos scories et nos imperfections.
Père Boris, est-ce que vous pourriez nous raconter une expérience spirituelle qui a enraciné cette prière du cœur?
Comme expérience, je ne sais pas, j'ai eu le désir du sacerdoce depuis mon enfance, et ce n'était même pas une expérience, c'était une évidence. Le Seigneur nous donne ces évidences-là qui dépassent toute notre intelligence, et c'est une réalité que j'ai vécue, et puis je suis entré dedans, presque sans expérience, de plein pied, et puis de sorte que pour moi le chemin était évident. Ensuite, bien sûr, dans ma vie adulte, j'ai vécu, disons, la réalité des saints. Je pense à la petite Thérèse, je pense à Charles de Foucault, je pense à Saint-Séraphin de Sarov, plus tard au Star et Silouane. Nous avons ainsi de ces grandes figures de sainteté qui, quelquefois, m'ont marqué d'une grâce très réelle, très particulière, d'une sorte de douceur, d'une sorte de sentiment de présence de Dieu. Mais on n'est pas tout le temps dans ce sentiment. Il ne faudrait pas non plus faire de nous une sorte des mystiques déjà installés dans la contemplation. Je pense que là, il faut être très, très prudent et très réaliste, ne pas faire de nous-mêmes, n'est-ce pas, des images car nous connaissons, nous aussi, nous tous, nous connaissons les contrastes, les contradictions, les difficultés, les hauts et les bas aussi de notre vie spirituelle, de notre vie tout court.
Est-ce facile d'être un théologien orthodoxe en monde occidental ?
Je ne sais pas si c'est facile ou difficile, mais je pense que Dieu nous donne de le vivre. Je contesterai la notion de monde occidental. Je crois que là, il faudrait quand même bien souligner que nous sommes tous dans un Occident par rapport au seul Orient qui est le Christ. Ça, c'est une chose que j'ai beaucoup développée récemment dans différentes études ou conférences. Nous ne devons pas parler du monde occidental comme si nous autres orthodoxes, nous étions en face d'eux dans un Orient où nous serions installés et très à l'aise. Derrière l'Orient, il y a un autre Occident. Orient, il y a un autre Orient, il y a un extrême Orient. Derrière l'Occident, il y a un autre Occident, un Far West finalement peut-être. Et puis alors, les extrêmes se touchent, mais les extrêmes se touchent pour le meilleur et pour le pire. Donc je crois que là, il faut rappeler que notre seul Orient est le Christ. Et là, je pense que nous avons tous à nous retrouver dans cette orientation, dans cette réorientation de notre vie entière. Et c'est ça le sens de notre vie chrétienne, que nous soyons orthodoxes ou catholiques.
Vous voulez ajouter quelque chose ?
Mais je crois que je suis surtout très honoré d'être là, dans ce grand lieu de Radio Vatican, et je voudrais simplement souhaiter à tous mes auditeurs que l'Esprit-Saint les pénètre, les fortifie, et les console aussi, parce que l'Esprit-Saint est l'Esprit consolateur, et les amène à une pleine vie, à une expérience de l'amour de Dieu.